Mascorade. Des entretiens proposés par Emmanuel, confiné à Verfeil, sur CFM. Salut, c'est Emmanuel sur CFM. Aujourd'hui, le 2 avril, dans Mascorade, nous allons à Bali, île indonésienne où mon pote Manu peint et vit depuis 6 mois, après avoir vécu dans de nombreux pays ces 10 dernières années, à la rencontre des autres et de lui-même. Il nous livre ici une vision optimiste de cette période étrange due à l'épidémie du coronavirus. Bonne écoute.
Je suis à la maison.
T'es bien à Bali ?
Je suis trop bien, j'ai pas envie de bouger.
Je suis à Ubud.
Géographiquement, c'est un peu au centre-est de l'île.
Depuis combien de temps ?
Ça fait depuis le mois d'octobre, dans 6 mois, un peu plus de 6 mois.
T'es dans un hôtel ?
Je suis dans un hôtel, mais je loue au mois. En fait, c'est un hôtel très spécial. C'est comme un petit village, il y a des villas, il y a des maisons. Il y a aussi des chambres, mais moi, je suis dans une petite villa. Et c'est très espacé, en fait.
Vous êtes confiné ?
Non, en fait, il y a une partie de la ville où j'habite qui est... comment dire ? Il y a certains quartiers où les hôtels laissent pas rentrer les étrangers. En fait, si t'es pas de l'hôtel, tu rentres pas. Mais c'est vraiment une partie minime de la ville parce que le reste, tout le monde s'en tape. Là, il y a quelques jours, ils étaient des milliers de personnes à ramasser le plastique, toutes les merdes sur les plages. Donc, c'est pas trop d'actualité. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de cas ici.
Est-ce que ça serait possible de confiner les gens à Bali ?
Ah bah écoute, s'ils l'ont fait en Chine, je pense que c'est possible. Ils ont essayé en Inde aussi avec des coups de bâton. Mais ici, ouais, je pense que ça serait possible. Après, c'est un peu bizarre, mais l'Indonésie, c'est quand même le troisième pays le plus peuplé au monde, donc il y a du monde. Mais tout est possible, hein, tu vas me dire. Mais après Bali, ils sont vachement religieux. Enfin, ils croient beaucoup en Dieu. Ils s'en foutent un peu toutes ces histoires. Pour eux, c'est des cycles, la réincarnation, s'ils meurent, ils meurent, quoi. Ils commencent un peu à avoir peur des touristes parce qu'ils entendent dans les infos, les trucs, le virus. Il n'y a pratiquement plus de touristes, en fait. Tout est vide. La plupart des restos sont fermés, ils font que emporter. En fait, Bali se sont rendus compte du problème parce que c'est les touristes qu'on fuit et qu'on beaucoup de business est tenu par des touristes, donc... Vu que les rues sont désertées, les Balinais se sont posés des questions. Après, moi, j'ai des amis qui habitent dans le sud, parce que moi, je suis dans le nord, et dans le sud, apparemment, rien n'a vraiment changé. Il y a moins de tourisme, mais c'est pas... Ils s'en foutent un peu, en fait.
Les touristes ou les Balinais ?
Les Balinais. Et les touristes aussi, dans le sud, ils s'en foutent un peu. Parce que, en fait, le truc, c'est que ce virus, il a commencé en Chine. Janvier, février. Et du coup, à Bali, il y avait plein de touristes chinois. Et en fait, on se dit, quelque part, si le virus, il aurait dû se propager, il se serait propagé d'abord à Bali avant de se propager en Italie ou en France. Puisque c'est pas logique. Je me dis, si ça ne s'est pas développé autant, ça va pas se développer, quoi.
Donc, toi, t'es pas inquiet ?
Non, pas du tout, non. J'ai une pote qui vient d'arriver. En fait, je peux pas trop sortir, j'ai des béquilles, c'est relou, donc elle m'apporte à manger. Elle peut rentrer, de toute façon, il y a plusieurs entrées par derrière, on arrive toujours à trouver une solution. Et je peux pas bouger comme un con, je me suis confiné tout seul, en fait. Parce que j'ai pas le choix, mais non, il n'y a pas de confinement. Et en fait, Bali, c'est aussi, comment expliquer, c'est chaque quartier... est géré par différents pouvoirs. C'est-à-dire que le sud, c'est là où il y a le plus de musulmans. Et il y a beaucoup de mafias dans le sud. c'est plus sous l'influence du gouverneur indonésien. Parce qu'en fait, ici, ils ont ce qu'on appelle les banjars. Le banjar, c'est un centre communautaire où tous les gens du village ou du quartier adhèrent. C'est eux qui gèrent tous les problèmes. Si par exemple, tu n'as pas assez d'argent parce que ta mère doit se faire hospitaliser, tu vas voir le banjar et ils vont t'aider. Le banjar, quand il y a des hôtels de luxe, c'est eux qui prennent les loyers des hôtels. C'est un peu eux qui contrôlent tout, mais c'est très communautaire. Donc, ils partagent tout. Et donc, c'est eux qui contrôlent. Et chaque village, chaque quartier a des banjars différents. Donc, en fait, c'est eux qui régissent leurs lois et qui font leurs lois. Donc, dans chaque endroit, c'est différent. Par exemple, j'ai une copine qui habite à 5 minutes en scooter de chez moi. Elle peut sortir, elle peut faire ce qu'elle veut. Ils s'en foutent, il n'y a rien. Moi, ici, j'ai dans mon hôtel, le banjar est venu et a dit au patron de l'hôtel, plus personne de l'extérieur a le droit de venir visiter l'hôtel. Il n'y a que les gens qui sont à l'hôtel qui sont là et qui restent là. Ce qui est un peu débile parce que si on sort et on ramène le virus, parce qu'on a le droit de sortir, mais personne n'a le droit de rentrer. Donc, bon, forcément, on est obligé de sortir pour faire des courses. Mais bon, c'est un peu n'importe quoi, n'importe où, quoi, en gros.
Quand je parlais de la difficulté de confinement de Bali, je parlais surtout économiquement, le fait qu'il y ait toute une population dont l'économie repose sur l'économie informelle et qui vivent dehors. Tu vois, en Inde, par exemple, les gens ont dû quitter les villes parce qu'ils mouraient de faim.
Ouais, bah oui, surtout qu'en fait, ils ont voulu rentrer chez eux. C'était que beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans les villes et il n'y avait plus de transport. Donc, ils étaient bloqués. Bali, c'est beaucoup plus moderne. Il y a plein d'expats. C'est plus petit, donc c'est plus facile à gérer, c'est sûr. Mais les locaux ont leur vie, ont leurs habitudes. Tu sais, Bali, c'est un des pays, pour te dire à quel point ils sont spirituels, enfin religieux. Il y a plus de 270 cérémonies par an. Donc c'est pratiquement une tous les jours, quoi. Dès qu'il y a un truc, ils achètent un scooter, ils font une cérémonie. N'importe quoi est cérémonie, quoi. Et sans compter que tous les jours, tous les matins, enfin trois fois par jour, il y a des offrandes, ils font des offrandes.
Elles continuent à avoir lieu.
Ouais, rien les arrête ici, quand c'est Dieu, il n'y a pas de... En fait, il y a eu par exemple une très grande cérémonie quand c'était en plein dans le virus, il y a une semaine ou deux. C'est une des plus grosses cérémonies de l'année, qui s'appelle Ogo Ogo. Ils construisent des énormes statues de démons, et ensuite ils brûlent ces statues, et pendant 2 jours, plus personne n'a le droit de sortir, et plus d'électricité, l'aéroport est fermé, plus de voitures, plus rien, pendant 48 heures. Parce qu'ils se cachent pour pas que les démons reviennent. Et donc cette grosse cérémonie qui a eu lieu, dans certains quartiers elle a été interdite, dans d'autres elle avait lieu. Dans certains quartiers elle avait lieu mais les touristes n'avaient pas le droit d'y aller. Et c'est vraiment un peu partout différent, quoi. Normalement ça dure 24 heures, elle a duré 48 heures à cause du virus. Ils se sont dit bon bah personne sort. Mais elle a quand même eu lieu dans beaucoup d'endroits.
Donc il n'y a pas de mesure gouvernementale par rapport au corona?
Non, pas vraiment encore, non. Il y a des mesures de quartier.
En fait, toi, ça change pas ton quotidien?
Pour moi, ça change dans la mesure où j'ai plus de potes qui peuvent venir me voir à l'hôtel.
Et c'est quoi ta situation professionnelle?
Moi, j'avais mis de l'argent de côté et puis je vis avec ça. Et je vends un peu des peintures de temps en temps. Jusqu'ici, tout va bien.
Est-ce que la pandémie a un impact sur ton imaginaire?
Non, pas vraiment. Bah, de ce qu'on a vu dans les médias, souvent, c'est des gens qui ont déjà des problèmes de santé. Donc, j'y pense pas trop. C'est comme penser à la grippe, on s'en fout, quoi. Pourtant, il y a plein de morts tous les ans, mais je suis pas vraiment affecté par ça, en fait. Je sais qu'en Europe, c'est dans les médias. Partout, si rien n'a vraiment changé. Donc on n'a pas encore ce conditionnement qui peut changer notre façon de penser, en fait.
Donc toi, ton sentiment à Bali par rapport à tout ça, c'est que ça va pas avoir une grande répercussion?
Bah, ce que je me dis, c'est que s'il y avait dû avoir une grosse pandémie, quelque chose d'assez conséquent, elle aurait dû déjà se passer, en fait. Après, c'est vrai que le gouvernement ici, Est-ce qu'il fait vraiment des tests? Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que... Donc il y a eu quelques cas, ça commence, il y a eu des cas récemment, mais ça reste minime. Et j'ai entendu dire que les cas, les gens qui ont été contaminés ont été emmenés à Jakarta pour les soigner dans les grandes villes et les mettre à l'écart des autres. Et j'habite ici à Bali parce que ce qui m'intéresse ici, c'est que les gens sont très 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 spirituels, très connectés au divin. Et je pense que c'est le problème qu'on a qu'en Europe, que les gens ont oublié, ils ont perdu cette connexion-là. Donc la peur, l'angoisse, et on sait très bien quand les gens ont peur, bah, les maladies sont plus facilement, arrivent plus facilement, les problèmes arrivent plus facilement. Ici, si tu veux baliner, quand ils voient quelqu'un d'autre, ils voient un être humain et ils le perçoivent en tant qu'esprit. Donc voilà, une des premières raisons pour laquelle je suis là, c'est quand même au niveau spirituel et au niveau croyance où la mort n'est pas un problème, la peur n'est pas un problème, puisqu'il y a des cycles et qu'on renaît et que cette vie-là n'est pas une fin en soi, ça continue après quoi. Donc c'est pas un petit virus qui va nous faire peur et si jamais on meurt du virus, ben c'est le karma, c'était comme ça quoi. Bon, ça n'empêche pas après non plus de dire il faut quand même se protéger et ne pas prendre de risques. Mais en règle générale, c'est pas quelque chose qui nous hante l'esprit, quoi.
Donc il n'y a pas non plus de crainte d'une crise économique qui pourrait s'en suivre.
On n'est pas à l'abri. Je suis pas un spécialiste de la finance. Par rapport à la population et à la taille de l'île, c'est une île volcanique, donc qui est quand même fertile. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de choses qui poussent, les rizières, il y a beaucoup, beaucoup de riz. Alors, est-ce qu'on arriverait à survivre et à partager toutes ces ressources? C'est compliqué parce que le sud, par exemple, c'est des villes où tous les gens sont les uns sur les autres. Il n'y a aucun... Enfin, il n'y a pas de rizière, il n'y a rien. Tout le monde est dépendant des supermarchés. Et est-ce qu'on arriverait à un moment où il n'y aurait plus de... où ça serait la pénurie? C'est possible parce qu'il y a quand même du monde. Après, on serait peut-être dans une début de guerre civile. Parce que c'est les gens, quand ils ont faim, ben, ils seraient prêts à venir dans le nord, à piller des agriculteurs. Ou, voilà, donc tous les scénarios sont possibles. Je suis assez confiant, je pense pas qu'on va en arriver là.
Ta vie un peu à Bali?
Ma vie à Bali, moi, c'est de faire de la peinture, d'explorer. Il y a des anciennes civilisations qui sont venues de Java, qui étaient là avant les hindous. Donc, il y a des temples qui sont très similaires avec les temples qu'on peut retrouver en Amérique du Sud, en Égypte. Il y a des fois où je me balade dans la jungle et j'ai l'impression d'être au Guatemala ou au Mexique, de tomber sur des temples fascinants qui ont des milliers d'années. C'est beaucoup de connexion avec la nature.
Ce que j'apprécie dans la nature, c'est que la nature, il n'y a pas de mental. Et puis surtout, les milieux tropicaux comme ça, avec une nature incroyable, abondante, des fleurs comme j'avais jamais vu de ma vie, des couleurs, des animaux. Il y a beaucoup d'expériences mystiques à Bali, en fait. Bali est appelée l'île des dieux, et c'est vrai qu'il y a un pouvoir ici. Alors je me demande si c'est les volcans, mais il y a quelque chose de très fort en énergie. Et si on commence à être dans la négativité, les problèmes arrivent et ça va s'amplifier. Si on relativise et qu'on respire et qu'on essaye d'être positif, les bonnes choses vont arriver. C'est mon expérience ici. C'est que tout est un peu une réflexion de soi-même et j'apprends beaucoup de choses, j'expérience beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai réussi à passer le cap de la peur. En fait, la peur est notre pire ennemi. C'est-à-dire qu'on essaye de vivre pleinement le moment présent, sans se projeter, en essayant d'être en paix avec soi-même. C'est une question aussi d'énergie, de fréquence vibratoire. Encore une fois, ce n'est pas un virus qui va nous perturber.
Tu as vécu en Inde aussi?
J'ai vécu en Inde aussi. D'ailleurs, je suis parti en Inde pour 2 mois de vacances. Alors, pas du tout pour une quête mystique ou une réalisation spirituelle. Alors, pas du tout. Juste pour aller m'amuser. Et ces 2 mois de vacances se sont transformés en 2 ans. Il y a eu un moment donné où j'ai voulu faire des extensions de mon visa pour pouvoir rester plus longtemps, tellement c'était un gros kiff. Et puis j'ai pas réussi à avoir l'extension, les avocats, tout est pourri, tout est corrompu. Et à un moment donné, je me suis dit, et puis merde, j'étais déjà en overstay, enfin j'avais déjà passé la date, mon visa était déjà fini. Et je me suis dit, bah merde, quitte à être overstay 2 mois, 3 mois, bah finalement je suis resté 1 an et demi, 1 an et 3 mois sans visa. Je me suis dit, il y a les lois de l'homme, toute cette bureaucratie, toute cette merde d'administration qui nous freine et qui nous tue nos libertés. Je me suis dit, il y a les lois de l'homme, mais il y a aussi les lois de la nature. J'ai réussi à m'en sortir en moyennant un bakchich à un officier à l'immigration dans les toilettes, voilà, parce que il y a certaines personnes qui ont ce privilège de passer ce qu'on appelle des hors-la-loi, au-dessus des lois. J'ai dû voyager à peu près 30 à 40 pays dans ma vie, j'ai pas compté, mais et c'est vrai que j'ai jamais vu un pays comme l'Inde. C'est le pays où, même après 2 ans, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête. C'est complètement psychédélique, c'est une autre planète sur cette planète, quoi. Et donc forcément, quand tout fonctionne à l'envers ou différemment de chez nous, et ça fonctionne très bien, on se dit que bah, finalement, il n'y a pas une voie à suivre, mais il y en a plein. Chacun est libre de faire, de vivre comme il l'entend. Voilà, quand tu vois des pays comme ça, tu te dis, ah bah finalement, chez nous, c'est une catastrophe, on cache les morts à la morgue, les handicapés dans des écoles, les enfants dans les écoles, les vieux maisons de retraite. Tout le monde est séparé. En Inde, c'est la vie brute, c'est-à-dire que tout est là, on cache rien, quoi. Et donc j'ai vécu plein d'expériences et c'est en Inde que je suis devenu spirituel. Hein. Avant, j'étais limite un peu voyou, racaille, ce que tu veux, sans foi ni loi. Et l'Inde m'a appris que finalement, non, le monde n'est pas si détraqué que ça. Il y a des règles, il y a des lois naturelles et que tout est bien fait. Une fois que tu es bien avec toi-même, tu peux être bien avec tout le monde au final. Et l'Inde, c'est la meilleure école que j'ai pu faire, la meilleure université où j'ai appris le plus, j'ai appris beaucoup sur le monde et sur moi-même. Le virus, ça peut être une très bonne chose justement pour que les gens commencent à... Il y a des mouvements de solidarité et les gens commencent à se dire, ah, tiens, finalement, tout seul, ça fait chier, c'est quand même sympa d'être avec les autres. Et j'espère que ça va être un mal pour un bien et qui va quelque part nous forcer à une réunification ou au moins à une réflexion sur ok, pourquoi je vis, pourquoi je fais ce boulot de merde et surtout pour qui. Et voilà, en espérant que les gens vont réfléchir et qu'il va avoir une prise de conscience Et je pense que c'est. Je suis assez confiant d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer.
Pour l'instant, ceux qui souffrent le plus du confinement, par exemple, ce sont les plus pauvres. Par manque d'espace, ce sont tous ceux qui bossaient au black parce qu'ils ne peuvent plus bosser, tu vois, c'est toutes les économies informelles. Cette crise, elle révèle à fond les inégalités entre les gens et notamment, elle donne plus de pouvoir à ceux qui ont déjà du fric et qui sont en place.
Quand je parlais de la minorité, de l'élite, moi, je crois vraiment que on récolte ce qu'on sème. Donc, quelqu'un qui va avoir des mauvaises intentions, essayer d'éliminer ou de détruire ou de contrôler ou de les autres, eh ben forcément, ça lui retombera dessus. Ça, c'est mes croyances. Après, concrètement, comment ça va se passer, aucune idée. Il y a eu une vague de protestation, des gilets jaunes, tout ça, dans le monde entier. Et ce virus a tout arrêté net. Mais ça a arrêté les gens dans leur élan et dans leur manifestation, mais ça n'a pas arrêté les gens dans leur conscience. Donc, on va voir comment ils vont essayer de maîtriser la chose, mais les gens en ont marre. Les gens, ils ont compris, en fait, les imposteurs, quoi. Ils ont compris qu'ils se faisaient manipuler, là. Donc, ils peuvent pas tuer des gens qui ont plus peur de mourir, quelque part.
Tu penses pas, là, que cette crise va les mettre dans la merde?
Mais il y avait déjà des gens dans la merde, et tout le monde s'en fout. Il y a déjà beaucoup de gens qui meurent de suicide, beaucoup de gens qui meurent avec l'alcool, beaucoup de gens qui meurent d'autres maladies, et c'est pas pour ça que c'est partout à la télé, que tout le monde, et qu'il y a un élan d'entraide. Non, les gens s'en tapent. Donc là, maintenant que ça touche tout le monde, eh ben ça va changer les données, et puis on va voir. J'espère que ça va les réveiller, mais bon, après tu vas me dire c'est peut-être humain, chacun pense un peu à sa gueule, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, quoi. Et donc, dans ces pays-là, c'est sûr que c'est là où ça va être le plus grave, parce que les Indiens, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Donc, s'il y a des virus et des famines, c'est sûr que... Après, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, mais tout est tellement corrompu et pourri, on a même l'impression que si on envoie de l'argent ou des choses, tout va être détourné. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver des moyens d'action pour aider les autres et ceux qui souffrent, mais déjà, je dirais déjà de commencer autour de soi, à essayer de faire le bien, avec soi-même aussi, avec les gens qui nous entourent, c'est déjà les choses les plus importantes. Si tout le monde fait ça, ça ira déjà un peu mieux.
Et tu manges quoi là?
Je mange du riz comme presque tous les jours, mais je m'en lasse jamais. Il y a du tempeh aussi, des champignons. Petit truc. Ici, c'est ça qui est agréable aussi, c'est que tu peux manger pour 2 euros. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là. Tu manges très bien. Mais je disais pourquoi? Pourquoi vivre à Paris ou en France, payer cher une vie assez misérable dans la pollution, que ce soit la pollution de l'air ou la pollution de l'eau ou la pollution mentale des gens, de cette violence, de cette agressivité, de tout ce qui se passe. Payer des loyers très chers alors qu'ici, ça coûte rien et la qualité de vie est 10 fois, 20 fois ou 100 fois mieux qu'à Paris, quoi. Enfin, pour mon expérience personnelle. Après, il y a des gens qui vivent très bien en France, heureusement. Mais, Mais pour moi, il n'y a pas photo, je suis quand même beaucoup mieux ici, quoi. Le matin, je me lève, il y a des Kingfisher qui passent à gauche, à droite. Les Kingfisher, c'est les oiseaux bleus, donc c'est assez magique. Tu as des papillons énormes turquoises, j'habite au bord de la rivière. Et je vais faire mon yoga près du temple qui a des milliers d'années, un vieux temple des anciennes civilisations. Et une fois que j'ai fini mon yoga, je vais prendre ma douche sous une cascade d'eau. Et tous les matins, vers 11h, autour de la cascade, avec la réflexion du soleil, il y a un cercle. C'est un arc-en-ciel qui fait un cercle autour de la cascade. Donc si tu veux, cette magie, pour moi, elle est quand même rare. Vivre comme ça, je n'ai pas vu beaucoup d'endroits où j'ai cette chance de vivre comme ça. Donc je vais essayer d'en profiter au maximum.
Bon, ben Manu, je te dis merci.
Bah de rien, avec plaisir. Moi, j'aime bien parler. J'ai la chat. Je peux plus m'arrêter. Je peux encore parler de plein de trucs. Mais ouais, c'est cool de partager tout ça, ouais.
Et ciao, Manu.
Namasté. Au revoir.
Ciao à toutes et à tous. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode suivant pour parcourir avec nous le monde que nous habitons et les mondes qui nous habitent. Ciao !